Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Vous trouvez ça dans Matthieu chapitre 7, verset 28. Bonsoir. C'est la fin du sermon sur la montagne. Et comme tout prédicateur le sait, un message doit avoir une fin. Et Jésus était un excellent prédicateur, et quand il est arrivé à la fin de ce grand sermon que donc nous appelons le sermon sur la montagne, il a donné une conclusion qui est absolument remarquable. Sa conclusion, elle confirme en fait ce qu'il a enseigné tout au long de ce fameux sermon. Il touche vraiment au cœur de notre existence personnelle. Mais il passe des faux prophètes aux faux disciples. Il passe des docteurs incompétents aux auditeurs inconséquents. En fait, Jésus ne veut pas que son petit troupeau se berce d'illusions. Ce ne sont pas seulement les faux docteurs qui rendent le chemin étroit difficile à trouver et encore plus à suivre. Les disciples, ils peuvent aussi se tromper cruellement sur eux-mêmes, sur l'appel qui leur a été donné dans les Écritures, et même sur la personne de Jésus. Alors comment faire? Nous sommes en danger de nous tromper nous-mêmes et d'être trompés par les autres, et en particulier par les enseignants de la Bible. Alors comment faire? Bien, Jésus est très clair. Face au risque de se tromper, face au risque d'être trompé, il propose un choix radical. Un choix radical entre l'obéissance ou la désobéissance à son enseignement. Quand il a dit ça, il l'a dit. Il l'a parlé. Les gens le voyaient, l'écoutaient, il l'a dit. Et ce qu'il a dit à cette foule, il le dit aussi à tous ceux qui lisent ce sermon. C'est universel. Ce que nous trouvons dans la Bible, c'est universel. C'est pas seulement pour des gens qui sont appelés d'une façon spéciale. Toute parole sort de la bouche de Dieu est utile, doit être crue et mise en pratique. Donc le choix radical, c'est entre l'obéissance et la désobéissance à son enseignement écrit aujourd'hui. Alors Jésus parle clairement, pas besoin d'interpréter ce qu'il dit, pas besoin d'interprétation. Il montre que l'engagement à le suivre implique inconditionnellement notre esprit, notre volonté. Alors il dénonce. Et il dénonce quoi? Il dénonce deux fausses attitudes. La première, c'est la profession de foi uniquement verbale. On lit ça au verset 21-23. Je vais le lire. Ça, écoutez bien. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons? Par ton nom, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Première mauvaise attitude. Deuxième attitude, l'attitude d'une connaissance purement intellectuelle. Et ça, c'est le verset 24 à 27, on va le lire. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, ont battu cette maison, elle est tombée et sa ruine a été grande. Ces deux attitudes ne peuvent pas remplacer l'obéissance. Mais elles font pire que ça. Elles deviennent un moyen de cacher la désobéissance, très souvent. Quand on lit ce que Jésus dit, on entend clairement que notre destinée éternelle, elle dépend d'une obéissance sans restriction à l'enseignement de Jésus. Vous voyez, ces deux explications de Jésus au sujet de la profession de foi uniquement verbale, Seigneur, Seigneur, et la deuxième, celle de la connaissance intellectuelle uniquement, ces deux explications, ben, se ressemblent. Elles établissent quelque chose d'essentiel, toutes les deux. Qu'est-ce qu'elles établissent ? Elles établissent un contraste entre la bonne et la mauvaise manière de répondre à Jésus-Christ, à son enseignement qui est écrit, à son appel qui est écrit. Combien de gens disent « Dieu m'a appelé, je sens, n'est-ce pas, un appel, où il y a eu une prophétie ?» Ça, c'est du verbiage, excusez-moi, religieux. L'appel, il est dans la parole de Dieu. Il est dans la parole de Dieu. Et une fois qu'on fait ce qu'il dit, alors, par son esprit, il nous spécialise pour une œuvre ou pour une autre. Mais l'appel, il est dans la parole de Dieu. Tout le reste, c'est de l'enfantillage. Ces deux paroles qu'il donne là font ressortir toutes les deux qu'on ne peut pas être neutre avec Jésus. On ne peut pas. Mes frères et sœurs, un choix clair est irremplaçable. La vie ou la mort éternelle dépendent de la réponse qu'en toute conscience nous donnons durant notre passage ici-bas dans la condition mortelle. Ça dépend de la réponse qu'on donne. Pas verbale, hein, mais en acte. Plus tard, alors il y a les apôtres qui sont venus, ils ont repris ça, et ils ont bien expliqué qu'il ne suffit pas de parler de notre foi ou d'écouter la parole de Dieu, mais d'y obéir activement et pratiquement. Alors le premier danger, il ne suffit pas de dire, hein, ceux qui disent Seigneur, Seigneur, etc. Pensez que le salut repose simplement sur notre déclaration de foi, c'est une erreur profonde. Les déclarations verbales de notre foi, bien sûr, elles sont indispensables. Oui, je ne dis pas qu'il ne faut jamais dire, qu'il ne faut pas parler, qu'il ne faut pas dire Seigneur. Paul écrit que nous devons confesser de notre bouche et croire, hein, de notre cœur. On trouve ça dans Jean 10, 9, 10. Et une véritable confession, elle n'est pas possible sans l'assistance du Saint-Esprit. C'est encore Paul qui le dit dans 1 Corinthiens 12, 3. Je dis bien une véritable confession de foi. Elle n'est pas possible sans l'assistance du Saint-Esprit. Il dit « Personne ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit ». Ben moi je connais des tas d'acteurs au cinéma qui disent « Jésus est Seigneur », mais c'est pas par le Saint-Esprit, hein. Il y a des tas de gens qui disent « Jésus est Seigneur ben. ». Attention, dire « Jésus est Seigneur », ça n'a rien de spirituel, ça n'a rien de magique même, je dirais, et ça ne prouve rien. Celui qui dit « Jésus est Seigneur », en fait, celui qui le dit en vérité, avec l'assistance du Saint-Esprit, il le dit publiquement pour une chose, pour attirer l'attention des humains, pour attirer l'attention de la nature, pour attirer l'attention des bons et des mauvais esprits sur la force, sa propre force, la force de sa confession, sur la force de sa consécration personnelle. Celui qui confesse publiquement que Jésus-Christ est Seigneur, il attire l'attention sur sa propre force et sur sa propre consécration à Jésus-Christ, son Seigneur. Jésus est Seigneur, c'est le mien, c'est celui à qui j'obéis. C'est ça que ça veut dire. C'est dans ce sens-là qu'on ne peut pas le dire sans l'assistance du Saint-Esprit. Si cette confession, c'est que du verbiage religieux, dénué de vérité, c'est-à-dire dénué de réalité dans les actes, ben alors ce Jésus est Seigneur n'est pas prononcé avec l'assistance du Saint-Esprit. C'est ça que ça veut dire, mes frères et sœurs. Devant Dieu, ils diront Seigneur, Seigneur, mais n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Ok, mais tout ça, ce n'est pas de l'obéissance. Alors, tous ceux qui sont là et qui disent « Mais n'avons-nous pas fait ceci en ton nom? N'avons-nous pas dit cela en ton nom ?» Ils finissent par se taire et puis Jésus fait là une déclaration solennelle. En fait, c'est une confession que Jésus fait là. En grec, c'est le mot, excusez mon accent grec, en grec, c'est le mot onolegeso, onelego, gezo, je ne sais pas comment on dit. Et, mais en tout cas, je sais une chose, c'est que ça signifie je confesserai. En ce jour-là, je confesserai, dit Jésus, je ne vous ai jamais connu, écartez-vous de moi, vous qui faites ce qui n'est pas juste. Seigneur, c'est pas juste alors de prophétiser. Si, mais c'est pas ça que j'attends en premier. C'est pas juste de guérir les malades. Si, c'est bien, mais c'est pas ça que j'attends en premier. C'est pas parce que elle ne confessait pas Jésus que ces personnes ont été rejetées, pas du tout, mais parce que elles ne se sont jamais vraiment soumises au Seigneur en obéissant à la volonté écrite du Père. Ah, elle rendait témoignage, ah, elle priait pour des maladies, des guérisons, ah, elle prophétisait en son nom, tout ça. Mais la différence réside entre le dire et le faire. Ce n'est pas sur des œuvres miraculeuses qu'on peut faire que nous serons jugés, mais sur notre comportement de tous les jours. Pas sur le miraculeux. Le miraculeux, c'est Dieu qui fait. Et c'est très facile de dire « au nom de Jésus ». Dans 2 Timothée 2,19, Paul écrit, il écrit à Timothée, il lui dit qu'il s'éloigne de ce qui n'est pas juste celui qui invoque le Seigneur. Je le redis, mais dans le sens du français courant d'aujourd'hui, celui qui dit, celui qui invoque Jésus, ben il faut qu'il s'éloigne de ce qui n'est pas bien. Jésus veut de l'authenticité. Il veut que l'authenticité se manifeste par des bonnes œuvres, de l'obéissance à sa volonté écrite. Ça, c'est le premier danger. Le deuxième danger, c'est le savoir. Verset 24-27, hein, il ne suffit pas de... Voilà, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, etc. etc. Là, le contraste, c'est plus entre le dire et le faire. Mais le contraste, il est entre le entendre et le faire. Entendre dans le sens de comprendre. Il y a deux sortes d'auditeurs, mes frères et sœurs. Deux sortes de lecteurs. Ils construisent leur vie, et de loin, un peu superficiellement, on pourrait penser que leur construction est semblable. Elles sont semblables. Mais c'est la tempête qui révèle la différence fatale. Et pour ne pas faire de mauvais jeu de mots, je dirais que c'est la tempête qui révèle la différence fondamentale. Alors ceux qui disent être croyants, mais qu'ils le soient vraiment ou qu'ils ne le soient pas vraiment, ils se ressemblent beaucoup. Jésus compare deux sortes de personnes qui se présentent comme chrétiens là. Leur vie spirituelle semble évoluer de manière semblable, c'est pareil, c'est comme s'ils construisaient une maison, ils construisent leur vie spirituelle, leur vie, voilà, ils construisent, c'est vraiment terrible, c'est pareil. Les uns et les autres écoutent des sermons, les uns et les autres lisent la Bible, hein? Mais le problème ne réside pas dans le fait d'aller à l'église pour écouter l'évangile ou d'entendre ou de comprendre, mais de la suite qu'on donne à cette écoute. C'est ça l'important. Frères et sœurs, la vraie crainte de Dieu, elle ne peut pas être distinguée de la contrefaçon autrement que dans l'épreuve, la tempête. Et croyez-moi, le jour du jugement, ça va être une sacrée tempête. Ce qui est important, c'est de faire ce que Jésus dit. Pas seulement de savoir ce qu'il a dit, mais de faire ce qu'il a dit. Bon, alors vous me direz, oui, mais alors, le Nouveau Testament, quand même, il met l'accent sur le salut par la grâce. C'est salut par la grâce, par le moyen de la foi. Alors Michel, qu'est-ce que tu nous racontes? Oui, c'est vrai. Mais Jésus là, qu'est-ce qu'il fait là? C'est Jésus qui parle là. Ben, il souligne que ceux qui entendent et confessent la foi en Jésus-Christ doivent obéir à ce qu'ils ont entendu, à ce qu'ils ont compris. Alors les œuvres, c'est quoi? Elles sont l'expression de la foi que nous avons. Les bonnes œuvres sont la preuve que nous avons la foi. Je voudrais vous lire deux textes. C'est 1 Jean 1,6, où il est dit « Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, avec Jésus, et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. » Un autre texte se trouve dans le même 1 Jean, mais au chapitre 2, verset 4. « Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. » En bref, seule la foi qui se traduit par de bonnes œuvres, d'obéissance à ce qui est écrit, sauve. Oui, c'est vrai, nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi, mais la seule vraie foi, elle se traduit par des bonnes œuvres d'obéissance. Sinon, on est en train de se moquer de qui là? Il dit, genre, vous êtes des menteurs si ce n'est pas ça. Alors que dire? Mes frères et sœurs, l'enseignement de Jésus, très souvent je lis ce que des chrétiens écrivent. Le Seigneur Dieu est rempli d'amour. Jésus est bon, il est grand dans son amour infini, dans sa compassion, tout ça c'est vrai. Mais quand on regarde bien ce que Jésus a dit, hein, l'enseignement de Jésus fait apparaître la Bible comme un livre subversif. Eh oui. Et puis l'enseignement de Jésus fait paraître la communauté, c'est-à-dire son Église, comme une société à laquelle il est plutôt risqué de se joindre. Eh oui. Mais tant pis. Mes frères et sœurs, nous avons la lourde responsabilité de vivre ce que nous savons et de faire selon ce que nous disons. Alors voilà ce que j'avais à dire ce soir. Peut-être que ça aidera quelqu'un qui s'illusionnait un peu, qui se laissait bercer par une fausse idée d'un doux Jésus aux joues roses, gentil et... Bien sûr que Jésus est gentil, bien sûr. Que Dieu vous éclaire et vous montre que l'obéissance, ça Jésus s'attend à cela, il attend votre obéissance. Jésus revient bientôt et ça là, son retour, ça ne va pas être de l'amusement pour beaucoup. Ça ne va pas être de l'amusement pour beaucoup. Il y aura des pleurs, des grincements de dents. Pourquoi ? Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait ci, n'avons-nous pas fait cela? Nous sommes vierges pour toi. Nous sommes restés vierges pour toi. Nous sommes restés purs pour toi. On n'a pas été se prosterner devant les idoles. On a été à l'église tout le temps, on priait, on jeûnait, là, oh, oui. Oui. Et il y a tout le reste. Et puis il y a surtout les fondations. Sur quoi Jésus a-t-il bâti son Église? Quelle est la volonté de Jésus au sujet de son Église? Comment Jésus-Christ veut-il son Église? Ah, mais Michel, ça c'est ton interprétation. D'accord. D'accord. Relisez tous ces textes, relisez les évangiles, relisez les apôtres, les prophètes, avec un cœur bien disposé. Et que le Saint-Esprit vous révèle ce qui est à faire, afin que vous soyez réellement sauvés et que vous ne vous illusionniez pas simplement à cause, c'est vrai, de certains docteurs, de faux docteurs qui prétendent des choses. Vous savez, il y en a qui disent « Ah, il faut lever sa main à la réunion, être baptisé, arrêter de fumer, et puis ça y est, vous allez à l'église et puis vous êtes des chrétiens. » C'est quoi ça? L'autre jour, quelqu'un me disait « Ah, mais elle n'est pas chrétienne, elle fume !» Parler d'une sœur, elle n'est pas chrétienne, elle fume. Je dis, ah bon? Donc être chrétien, le signe, c'est ne pas fumer. Regardez avec des yeux tout ronds. Je dis alors, dans les années 1400 et quelques, comme la cigarette n'existait pas, tout le monde était chrétien alors. Vous voyez, parce qu'on a abandonné certains trucs, on pense que... Mais c'est pas simplement abandonner le péché d'être chrétien, c'est aussi obéir à ce que Jésus dit de faire. On nous prêche trop ce qu'il ne faut pas faire, on ne nous dit pas ce qu'il faut faire. Oh, mais alors, ça c'est bien. Ah, c'est pas de ma faute, vous voyez, c'est la faute de ceux qui nous enseignent, ils ne nous disent pas ce qu'il faut faire. Eh, oh, oh. Nous savons lire. Alors lisons les Écritures et mettons en pratique. Voilà mes frères et sœurs. Aujourd'hui, mon épouse et moi, nous fêtons nos 38 ans de mariage. C'était magnifique ce jour-là, il faisait à peu près le temps qu'il fait aujourd'hui, en tout cas ici chez nous. Là. Ça pleut, mais on dit, mariage pluvieux, mariage heureux, je ne sais pas si c'est la faute au dicton, non. Par la grâce de Dieu, eh bien, nous sommes toujours amoureux l'un de l'autre et nous irons jusqu'au bout. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et vous aussi, ma prière, c'est que vous serviez l'Éternel et que vous marchiez en obéissance avec Jésus. Que Dieu vous bénisse, vous garde et vous aide. Nous avons tous des difficultés. Tous. Vous avez les vôtres, j'ai les miennes. Et voilà. Mais nous avons la force en nous par le Saint-Esprit qui nous a été donné de faire face afin d'obéir. Et quand nous obéissons, Dieu se charge de nous pour nous bénir, nous aider, enlever les pierres du chemin. Soyez confiants et allez de l'avant. À bientôt, mes frères et sœurs. Dieu vous garde. Au revoir.